6 points.
Bon, merci. Je suis vraiment très heureuse de contribuer à cet hommage. Je n'ai pas simplement parlé du prix, comme il avait été convenu, puisque le prix, vous pouvez évidemment aller sur la fondation et voir ce qu'il en est. Moi, j'ai eu en 2006 l'honneur, vraiment l'honneur de recevoir le prix de la Fondation Seligman pour un ouvrage que j'avais écrit qui s'intitulait « La mémoire enchaînée, question sur l'esclavage ». Et j'avais été très touchée qu'un ouvrage donc consacré à l'esclavage colonial soit retenu par la Fondation, évidemment parce que c'était un sujet qui n'est pas très, très connu et qui ne fait pas malgré tout encore vraiment partie des choses dont on parle très souvent. Et François Seligman avait tenu à me rencontrer, ce qui m'avait aussi beaucoup touchée, et j'avais essayé donc au cours de cette rencontre de lui faire comprendre pourquoi cette question était fondamentale, qu'elle concernait non pas seulement les descendants d'esclaves, mais la France, bien sûr, puisque c'était une histoire française et surtout aussi une histoire européenne. Le prix lui-même, puisque je vais quand même en dire deux mots, récompense une création consacrée, dit le titre lui-même, à la lutte contre le racisme, qui participe au combat pour la victoire de la raison et de la tolérance, en s'attaquant aux sources du racisme, le fondamentalisme religieux, le colonialisme, les discriminations fondées sur la race, la nationalité, la religion ou le sexe. Et il a récompensé, et ça aussi c'était très intéressant, une très grande diversité d'ouvrages, des romans, des témoignages personnels, des biographies, des essais d'histoire et des sociologies. Et j'ai trouvé aussi cela important, c'est le point sur lequel je veux amener, c'est-à-dire qu'à travers ce prix, on voit la convergence donc, de plusieurs choses, que la question du racisme, de la discrimination touche plusieurs niveaux, que effectivement le sexisme fait le lit du racisme, le racisme fait le lit du colonialisme, et qu'on peut trouver plusieurs, évidemment, convergences et intersections. Mais je voudrais surtout m'attacher peut-être pour parler de cela à un point qui m'a... Je dois dire que j'ai rencontré la figure de François Seligman quand j'ai reçu le prix. Et une chose m'avait énormément impressionnée, toute sa vie, évidemment, dont on a parlé à la première table ronde, mais une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le courage. Le courage. Elle a montré toujours un grand courage, et le courage, je pense, est une chose extrêmement importante, particulièrement aujourd'hui. Il a un prix, car s'opposer au pouvoir qui opprime, méprise et écrase ne va pas sans risque. Et venant moi-même d'une famille de militants, je sais ce qu'il faut de courage, c'est-à-dire ce qu'il faut, comment faire appel à son cœur en tant que siège des sentiments pour s'engager. Le courage, a dit Jean Jaurès, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'aimer la vie sans craindre la mort, mais ce n'est pas pour autant être sans peur. D'où vient la volonté de s'opposer? Est-ce qu'il vient quelque chose qui est en soi? Ou est-ce l'esprit du temps qui fait et défait les courageux? Le courage, nous le savons, fut d'abord célébré sur les champs de bataille. Mais cette qualité, celle de mourir glorieux, n'est plus seulement celle-là. Elle est aussi de ne pas céder au découragement, d'endurer, de s'engager dans des combats. Le courage, a écrit le philosophe Étienne Tassin, n'est plus seulement du côté de la fougue, de l'impétuosité, de l'impulsivité, car il pourrait aller servir toutes les causes, y compris les plus illusoires et les plus amorales. La force de l'âme est ordonnée par la raison à une norme supérieure, une fin bonne, une idée du juste et du bien. Combattre le racisme, c'est obéir à une norme supérieure, à une idée du juste et du bien, à une fin bonne, celle du bien commun. Venons-en au combat actuel contre le racisme, puisqu'on m'a demandé de les évoquer. Début avril, Christine Lazergue, la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, déclarait que sur le long terme, le racisme en France diminue, le temps des ratonnades est révolu, mais le racisme qui se développe aujourd'hui est plus sournois et n'est plus réservé aux franges extrêmes. Il pénètre toutes les couches de la société. Les boucs émissaires aujourd'hui sont d'abord les Roms, qui ont été stigmatisés, y compris par le gouvernement, et ensuite les musulmans arabes. Plus de Français se déclarent racistes, dit le rapport, et il existe un refus croissant de l'autre différent, une défiance vis-à-vis d'un antiracisme perçu comme censeur. Les associations antiracistes, poursuit le rapport, ont beaucoup plus de peine à susciter du soutien. Gardons-nous cependant de croire que ces problèmes n'existeraient qu'en France. C'est aussi un problème européen. Car une rumeur parcourt l'Europe. En juin 2014, les représentants d'une ligne xénophobe et démagogue pourraient rentrer au Parlement européen en nombre suffisant pour influer sur ces décisions. La peur et la haine entreraient alors au cœur d'une institution qui décide de nos vies. Il devrait nous être insupportable de penser que l'Europe, où nous vivons et travaillons, dont nous sommes citoyens, puisse être entre les mains de ceux qui veulent une Europe inégalitaire. car depuis des siècles, l'Europe est en contact avec des peuples et des cultures d'Afrique, d'Asie et des Amériques. Depuis des siècles, des migrations de l'intérieur du continent même ou venant d'autres continents, la circulation des idées, de formes culturelles, de langues, de pratiques et de savoirs ont fait de l'Europe un continent où les processus de créolisation, comme le disait Édouard Glissant, s'accélèrent. C'est un fait irréversible. Et pour autant, un rapport d'Amnesty International rendu public il y a quelques jours nous rappelle qu'en Europe, les Roms sont de nouveau la cible de discrimination et de pratiques meurtrières. 90% des Roms d'Europe vivent ainsi sous le seuil de pauvreté. En France, nous assistons à ce que nous pourrions appeler un recodage du racisme pour le rendre imperceptible, donc socialement acceptable. La parole se libère, disons, entendons-nous. N'est-ce pas plutôt le retour d'un racisme latent ? Les actes antisémites, anti-roms, anti-musulmans se multiplient. On entend de plus en plus les formules comme « surtout pas de repentance ». Ils, les roms, les musulmans, sont inassimilables. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Il faut briser les tabous, être décomplexé sur ces questions, comme s'il s'agissait de culpabilité, de complexe, de repentance, et non de justice et de respect. L'islam a peu à peu été construit comme un problème. N'oublions pas que le racisme et les discriminations qui existent aussi dans les terres d'outre-mer, très souvent oubliées d'ailleurs quand nous parlons de racisme et d'intolérance, les racismes et les discriminations y augmentent. D'une part, contre les ressortissants de ces terres, le Sénat lui-même d'ailleurs avait rappelé récemment le caractère stigmatisant des clichés répandus dans la conscience française sur les ultramarins. Ce seraient des paresseux, des assistés, des ingrats. Mais dans ces terres aussi, il existe des racismes contre les migrants, le racisme anti-comorien et l'islamophobie à La Réunion, contre les Comoriens enfermés dans les camps de retention de Mayotte ou contre les Haïtiens en Guadeloupe. Combattre le racisme aujourd'hui, c'est imaginer de nouvelles solidarités dans un contexte dit de crise où les inégalités s'aggravent, où les pauvres sont jetés contre les pauvres, les démunis contre les démunis, où la crainte du déclassement et la peur de perdre le peu que l'on a poussent à rendre le voisin, l'immigré, le migrant, responsable de son propre malheur. Il existe des lois, il faut les appliquer. Pas seulement les rendre, mais les faire appliquer. Mais je pense que l'éducation est absolument nécessaire. On m'a dit que j'avais 10 minutes. Alors je cours. Une éducation qui ne soit pas seulement morale. Le racisme est un système de domination, ce n'est pas une histoire de méchants contre des bons. Une forme d'antiracisme est d'ailleurs devenue inopérante. Elle est trop souvent élitiste. Il faut réorganiser ces convergences. Il faut réinventer un langage neuf. Tenir compte que pour beaucoup, s'engager avec d'autres est perçu comme se trahir soi-même. Et je l'ai pu le constater encore récemment. Par exemple, il y a des peurs, comme celle de l'homosexualité dans des communautés, qui peut freiner les convergences. Et si vous m'accordez de faire appel à mon expérience, celle d'aller discuter depuis des années dans les quartiers populaires, dans les écoles, avec les associations, de l'histoire coloniale, esclavagiste et post-esclavagiste, et de leur relation avec le racisme et l'intolérance, j'ai constaté à la fois un désir d'histoire et un défaut d'histoire. Un désir d'histoire pour comprendre comment ça s'est passé. Comment s'est fait le consentement à l'esclavage colonial, au colonialisme. Pourquoi et comment les grands-parents sont arrivés en France. Qui a résisté et comment et avec qui. Quelles sont les figures du courage. Défaut d'histoire, car il manque des outils pour transmettre ces histoires et ces mémoires croisées, pour montrer que toujours, toujours, des voix se sont élevées contre le racisme et l'exploitation, que toujours, toujours, il y a eu des solidarités et que toujours, il y a eu le désir et le courage de s'opposer à l'exclusion. Une des urgences, et j'en suis convaincue, d'élaborer de nouveaux récits de l'histoire française et européenne qui croisent les mémoires et les histoires, qui mettent en lumière les convergences. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, et la délégation sénatoriale à l'Outre-mer ont accueilli 2 années de suite des rencontres intitulées « Histoire, mémoire croisée » et m'en avaient confié l'organisation. Ces rencontres avaient pour but de mettre en lumière des croisements d'expériences et de récits afin de sortir des récits, des replis identitaires et d'élargir notre regard. Et je, par exemple, juste l'an dernier, il y avait autant des historiens qui sont venus parler du 14 juillet 1956, quand 6 jeunes Algériens ont été tués, place de la Nation, et un jeune Français, que effectivement la spoliation des biens français de confession juive pendant la guerre, que de l'exil des insurgés algériens des 1871 dans les mêmes bateaux que les communards en Nouvelle-Calédonie, que les 20 000 ressortissants indochinois requis de force pour travailler en France, dans les usines françaises, c'est-à-dire de montrer qu'à tout moment, il y avait au même moment plusieurs événements qui pouvaient être croisés et mis en relation. au moment où l'histoire est plus que jamais manipulée et instrumentalisée pour soutenir des politiques discriminatoires, il faut refaire de l'histoire. Mais puisque nous parlons d'intersection des combats, une des formes de racisme qui émerge, et je pense qu'elle est très importante à intégrer, est celle qui est engendrée par les changements de climat. Cela peut paraître un peu bizarre de parler de ça, mais le GIEC récemment a démontré dans son rapport que le changement climatique est une menace pour la paix et la sécurité, qu'il aggrave la pauvreté et les menaces sur la santé. Et or, ce sont les plus vulnérables de nos concitoyens du monde qui en sont les victimes, d'abord les femmes et les peuples du Sud. Mais nous pourrions même parler de choses encore plus proches de nous, de l'île de la Guadeloupe, terre française, contaminée pour des générations par un pesticide, le chlordécone, qui avait été interdit dès 1976 aux États-Unis, et en 1980, des scientifiques en avaient démontré déjà les effets pernicieux. 80% des femmes qui accouchent à la maternité de Pointe-à-Pitre aujourd'hui ont démontré qu'elles contiennent de la chlordécone et que ça provoque des naissances avant terme. Les nouvelles formes aussi de colonisation, avec la privatisation des terres, la privatisation de biens communs comme l'eau et l'air, sont aussi intégrées dans les nouveaux combats contre le racisme, car c'est de racisme qu'il s'agit. Nous pouvons finalement envisager, et les scientifiques nous alertent déjà à ce sujet, que les découvertes en biologie, en neurobiologie, en génétique pourraient être utilisées pour renforcer les inégalités raciales si une éthique rigoureuse n'est pas mise en place. En résumé, les défis sont nombreux, mais encore une fois, c'est l'éducation qui compte. Être citoyen, faire preuve de citoyenneté n'est pas prouver son origine ethnique ou religieuse, mais faire preuve de responsabilité, d'engagement dans la vie civique, bref, d'action avec les autres. Aimé Césaire écrivait: une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. La perte de sentiments communs d'humanité représente un danger réel, il y a urgence. Le désir, le courage, j'y reviens, de contribuer au bien commun, Françoise Seligman l'a montré toute sa vie, dans sa vie et par sa vie. Merci.